Bonjour. Alors, je commencerai avec quelques questions de méthodologie dans un domaine qui veut échapper aux catégorisations traditionnelles. Et sans revenir donc sur les sujets qui avaient été abordés lors de la journée Réussir dans le PINC, on est en droit de se demander comment définir un groupe dans sa visibilité, sa lisibilité, son existence, sa pérennité ou à l'inverse, dans son effacement, sa fugacité ou sa discrétion. Alors, selon moi, un certain nombre de prismes peuvent être utilisés à cet effet. La durée effective, d'une part, la durée officielle d'existence d'un groupe, d'une formation, sous son nom d'origine ou légèrement modifié, ses possibles métamorphoses, si elles sont vraiment immédiates, sa présence scénique, sa substance discographique, son éventuel rôle iconique, ce qui pose d'ores et déjà la question des reformations qui engendrent des possibles querelles, on y reviendra, de légitimité entre un âge d'or révolu qui ne peut être repris que sous forme d'une pâle parodie pour certains. Se pose de fait la question de la dénaturation au fil des ans attribuée à certains groupes, ou à l'inverse, de stratégies originales permettant de se maintenir. Nous avons d'une part des groupes extrêmement éphémères, d'autre part des groupes extrêmement durables, et entre les deux, tout un camaïeu de nuances, pour reprendre une polarité issue du punk anglais, comment se situent les divers groupes français entre l'équivalent, par exemple, des Sex Pistols qui se sont voulu un projet éphémère et auto-sabordé, et d'autres groupes comme les UK Subs, encore existants aujourd'hui, après plus de 40 ans. Donc, dans un premier temps, l'instantané punk ou le règne de l'éphémère. Des groupes existent qui ne durent que le temps d'une répétition, avec parfois même pas le temps de se donner un nom. Ils sont répertoriés dans certaines encyclopédies sous forme de fanzines ou de sites web. Et on a divers degrés du passage de l'ombre à la pénombre, je dirais, avec des existences complètement éphémères, mais parfois des réinfusions dans d'autres groupes. Autre étape qui laisse davantage de traces, l'enregistrement d'une ou de plusieurs démos avec une circulation, puis un oubli relatif possible, sauf dans le monde des collectionneurs et des puristes, et enfin, dans un temps plus ou moins éloigné, une possible exhumation par des labels comme Euthanasie ou Mémoire Neuve, si tant est qu'entre-temps des pirates ne se soient pas chargés du travail. La présence scénique, pour sa part, peut ne pas laisser de traces et laisser tomber dans un oubli quasi inévitable, à moins qu'on possède des scène reports dans des hymnes ou des affiches, mais là encore une fois, il s'agit souvent d'un simple logo n'intéressant que les collectionneurs. Le premier degré d'émergence, tel que je l'ai repéré, serait l'apparition d'un titre sur une compilation. Je pense à la compilation éponyme du label Riposte, sortie en 1984. Trois groupes sur quatre, c'est-à-dire hormis Kidnap, n'ont pas réenregistré sous ce nom, mis à part cette compilation. Donc les trois autres groupes sont Disturbed, Skanks Offensive et Toxic. Non pas réenregistrés, mais se sont réinfusés dans d'autres formations locales, noises, telles que les Indymets. Les imbibés, pardon, même si on arrive au même résultat. Mais ont pu, comme Disturb, être réédités dans leurs démos sur des labels comme Euthanasie, qui a d'ailleurs produit Disturb sous forme d'un split avec le groupe SK Mix, qui avait également, pour sa part, laissé pour unique trace un morceau sur la compilation qui est en France, volume 1. Ce qui nous amène à la question des groupes à un morceau culte, un morceau sur une compile, donc SK Mix, La Force, Criminals Damage, Connery, sur qui est en France, volume 2, Brainwash, Sulak, sur 77 Records présente. groupes qui ensuite ont fait l'objet de rééditions un petit peu plus vastes, mais très récentes. Se pose ensuite un deuxième degré d'émergence, celui de l'enregistrement d'un 7 pouces. Alors parfois autoproduit, avec lorsqu'il est doublé d'un titre sur une compilation, le prototype d'une micro-carrière punk, par exemple le one-man band Mokomoko avec un 45 autoproduit et un titre sur une compilation KO. Un troisième degré de visibilité serait constitué par les carrières brèves mais marquantes. La première génération compte par exemple la Salt Jungle, les Tyrazors ou Gasoline dans cette catégorie, avec uniquement 1 ou 2 7 pouces. Et dans la deuxième génération, celle des années 80, des groupes à mini-albums uniques, éventuellement assortis de titres sur des compiles, tels les Collabos, Reich Orgasme ou encore 13e Section. On arrive donc à un troisième degré d'émergence, qui est assez proche du second, celui de la combinaison de plusieurs formats, par exemple Al Capote, 45 tours, mini-LP, plusieurs compilations, mais à ce niveau-là se pose la question de la reconnaissance. Un groupe comme RAF enregistre un 45 tours, deux albums LP, au moins un titre à ma connaissance sur une compilation, le tout bien enregistré. 20 ans après, le label Riposte possédait encore les stocks quasi intacts. Donc un succès assez mitigé. Et en sens inverse, des groupes à forte audience peuvent perdre leur public et connaître donc une ascension descendante, si je puis me permettre l'oxymore, avec une évolution esthétique ou musicale qui est mal perçue. Par exemple, Bulldozer, dont le deuxième album ne fonctionne pas. Starshooter, qui tient 4 albums, mais avec un public de plus en plus réticent face aux sonorités de moins en moins punk. Et le cas spécifique, un petit peu à part, de Metal Urbain, avec des ultimes changements de line-up, notamment au niveau vocal, des expérimentations sonores de plus en plus noise, et une réinfusion très rapide dans des projets comme Metal Boys et Dr. Mix and the Mix. Mais là, on rentre dans la catégorie, sur laquelle nous reviendrons en troisième partie, des reformations. Deuxième grande famille, celle des groupes qui durent, que j'ai appelé le nos futurs, mais un peu quand même, le temps long du punk. Et cette catégorie peut être divisée elle-même en 4 sous-catégories. La première, c'est celle des groupes à durée moyenne, mais à très fort succès, avec une discographie copieuse, je pense dans les années 90 à Zabriskie Point, qui sortait quasiment un album par an et plusieurs petits formats à côté, lesquels se vendaient à des tirages plus qu'enviables, avec un public très enthousiaste et une postérité qui, jusqu'aujourd'hui, se traduit par des rééditions vinyles, etc. Une deuxième catégorie, c'est vraiment les groupes au long cours. Alors, l'exemple typique est la Souris Déglinguée, avec des débuts complètement DIY en 1979, un premier 45 tours autoproduit, financé par un copain du groupe qui est celui qui travaillait, puis ensuite une présence scénique ininterrompue, une discographie très nourrie, notamment dans la décennie 1980. Et tout cela permis par une stratégie, celle d'un leader, en l'occurrence Taïluk, auteur-compositeur de 99,99% des morceaux, et avec des formations de secours qui rendent les musiciens, avec de très gros guillemets, remplaçables. Lorsque l'un manque, il y a éventuellement quelqu'un qui peut continuer à faire durer le timon. Et surtout, ce groupe a un public sûr, qui est complètement indépendant de ses évolutions musicales, qui va voir les concerts de la Souris parce que c'est la Souris, acheter les disques de la souris parce que c'est la souris, indépendamment de ce qu'on pense du contenu musical, soutenir la souris contre vents et marées parce que c'est la souris. Et Banzai est probablement un des très disques avec des sonorités rap, hip-hop, funky, voire ragamuffin, qui doivent tourner dans la collection d'un certain nombre de skins qui normalement n'écoutent que de la OI. Troisième catégorie, c'est les groupes que je qualifierais de long cours bis, c'est-à-dire ceux qui ne se posent pas, ne s'adossent pas forcément à un public ou à un style, mais qui durent dans le changement, comme Google Premier. Donc là, on est plus dans le cadre d'un artiste que d'une formation, mais on part d'un début vraiment très punk avec le premier maxi et le premier album. Donc on connaît les morceaux comme Jean-Cul ou autres qui sont très provocants avec un son punk déstructuré, un esprit très 77. Et au vrai des albums suivants, une évolution très libre dans des univers très variés, avec pour seule cohérence finalement le personnage de Google Premier, qui passe par la Cold Wave, avec les Affres de l'Angoisse, la Disco Pop avec le Maxi Travail Famille Patrie, le Hard Rock avec l'album Ami Public numéro 1, puis des évolutions vers une forme de rock punk, voire de chanson punk, et en même temps une évolution vers un spectacle de plus en plus total, tenant de la performance interactive, le tout servi par un système d'autoproduction, mais dans le cas de Google, à grande échelle. Enfin, quatrième catégorie de groupes qui durent, c'est ceux que j'appellerais lentement mais sûrement. Avec l'exemple, par exemple, de Panic LTDC. Le groupe se forme en octobre 1981 à Paris, autoproduit en 1983 un album, tiré à seulement 1000 exemplaires, seulement parce que dans les années 1980, le punk, normalement, on peut se vendre à 4, 5, voire 10 000 exemplaires, lequel n'est que tardivement édité en CD, en 2008, chez Combaroc, avec dans ces années 80 des concerts, des apparitions perlées sur des compilations, et donc une espèce de vie un petit peu en demi-teinte autour de cet album séminal. Puis ensuite, des expérimentations musicales, hardcore, metal, avec des démos studio au son très professionnel, une cassette notamment en 1992, assez intéressante, des lives qui sont enregistrés avec une bonne qualité sonore également, comme le live à Ris-Orangis de 1991, si ma mémoire est bonne. Bon, en 1995, le groupe perd son manager, qui décède. Il y a donc un demi-silence de 1996 à 2007, mais qui n'est pas un arrêt, qui est tout simplement une forme de très longue pause, avec une reprise progressive des concerts et l'enregistrement du titre « Juste un vieux punk » avec un clip YouTube qui connaît un très très fort succès, enfin un clip qui connaît sur YouTube un très très fort succès et qui est relayé par les réseaux sociaux, pour arriver finalement à un deuxième album en 2018. 1983-2018, qui forme des bornes les plus écartées. Donc, plus que des reformations successives, il s'agit d'un itinéraire en pointillé. Et enfin, cinquième catégorie que je mets volontairement en dehors des quatre premières, c'est celle qui consiste à ne pas être dans une catégorie, avec le cas par exemple de Varun Joe, qui du fait de son originalité l'empêchant de rentrer dans à peu près aucune case interne au punk, tout en étant un groupe punk sans être un groupe punk, connaît de par son originalité une vie ininterrompue avec un public extrêmement, extrêmement attaché. Nous en venons donc au dernier moment qui est celui des reformations. Alors les reformations, elles sont toujours attendues, hein, pourvu qu'ils se reforment, si jamais ils pouvaient se reformer, etc. Dit-on en écoutant ces vieux vinyles lors de soirées pluvieuses et de dimanches d'octobre. et derrière, parfois, des déceptions, mais pas forcément. Donc plusieurs scénarios sont possibles. Certaines reformations sont à succès, comme celle de Metal Urbain dans les années 2000, avec un son renouvelé, de la boîte à rythme analogique des années 70, on est passé à des rythmes très électro, très lourds, type EBM, Electro Boogie Music, et donnant par exemple à des morceaux comme Crève Salope une nouvelle jeunesse. Et Brassens, alors je rappelle qu'un clip avait été, d'ailleurs, un nouveau clip avait été fait pour ce morceau, extrêmement, extrêmement dérangeant et provocateur. Et l'avantage de toucher plusieurs générations. Je me souviens d'un concert de Metal Urbain dans cette période-là, on avait vraiment des quinquagénaires ayant connu la première époque, et puis leurs enfants. Quelque chose de transgénérationnel. D'autres succès sont plus mitigés, notamment lorsqu'il s'agit des reformations des groupes phares des années 80. Alors avec par exemple des reformations parfois très éphémères, comme celle des Collabos, celle de Tue-la-Vioque qui a donné lieu à des querelles internes, dont on ne sait pas si elle n'aura donné lieu qu'à un concert ou se poursuivra, puisqu'il y a même deux line-up différents qui se sont séparément créés, mais sans pour l'instant qu'on sache s'ils existent réellement. Kidnap, qui produit essentiellement du live, mais pas de nouveaux titres, ni sur scène, ni en studio. Comintern Sect, qui a quelques nouveaux titres, qui a sorti un nouvel album, un nouveau mini-album lors de sa reformation. Généralement, lui préfère les titres de la première période. Donc, on a l'impression parfois, à écouter certains auditeurs, que ces groupes ne se renouvellent pas ou ont du mal à se renouveler, ou se renouvellent mal. Par exemple, Wunderbar, l'album de la reformation, Increvable, serait moins énergique que les deux albums initiaux autoproduits au début des années 80. Et cette impression que ces groupes se reforment finalement pour faire plaisir à un public et puis quelque peu peut-être pour se rendre hommage à eux-mêmes. D'ailleurs, quand on va voir ces groupes en concert, c'est essentiellement pour les entendre réinterpréter leur tube vieux de 35 ans ou plus. Mais, je terminerai là-dessus, est-ce que c'est pas le cas de 90% des groupes punk et rock en général, dont on considère souvent que tout est dans le premier album, selon une formule un petit peu canonique, et qui tiennent compte souvent, bien malgré eux d'ailleurs, de cette réalité dans la perception de leur œuvre, puisqu'en concert, c'est souvent ces morceaux-là, ces morceaux à succès, pourtant issus d'un passé éventuellement perçus comme révolus, qui sont joués en priorité lors d'un concert de la Souris Déglinguée, on a droit essentiellement à l'album, au répertoire de l'album initial de 1981, qui domine très largement la setlist. Donc, d'un autre côté, reformé ou non, le public, qu'écoute-t-il des groupes punk français canoniques? Quels titres des groupes plus récents reprennent-ils volontiers? Eh bien, un groupe qui reprend du Caméra Silence, par exemple, ce sera Pour la gloire, à 99% des cas, et non pas le deuxième album. Star Shooter, ce sera le premier album, ou le 45, Get Back. Et finalement, je ne fais que renvoyer, j'allais dire au carnet de chant, mais ça se fait un petit peu scout, au livret de paroles que nous avons lors de nos boeufs qui suivent normalement, et malheureusement pas aujourd'hui, nos journées d'études, quels sont les morceaux présents sur ce carnet, sur cet opuscule contenant les hymnes qui vont être repris? Eh bien, ce sont finalement, en punk français comme anglo-saxon, des groupes, des morceaux issus des tout premiers enregistrements, des tout premiers disques des artistes concernés. Donc finalement, on revient quelque part au nos futurs, mais par un biais inattendu, celui de nos futurs a posteriori, de nos futurs appliqués finalement un petit peu malgré les groupes à leur œuvre qu'on assigne sur un segment initial qui, pour reprendre le titre d'une anthologie de métal urbain, formerait donc l'âge d'or. Je vous remercie.
Je crois qu'on peut applaudir Flavie. Merci de nous entendre.
C'est toujours un grand plaisir d'écouter ces communications très, très documentées, une réflexion assez posée sur des questions qui sont essentielles. Et parmi d'autres, j'ai retenu celle aussi des publics pour les groupes qui se reforment et qui finalement, c'est le cas avec Strychnine, moi j'ai pu l'expérimenter, se retrouvent parfois face à une, deux, peut-être même parfois trois générations tout d'un coup. Deuxième point sur lequel il conclut, c'est la question de l'âge d'or du groupe et de ce qu'on va jouer et de ce qu'on ne va pas jouer. Et ça, c'est effectivement une question essentielle. Alors, on se donne peut-être une petite dizaine de minutes, même si Flavien ne peut pas nous répondre, peut-être pour éventuellement avoir un dialogue, si vous le souhaitez, hein, et y compris avec François et notre ami Philippe. Je ne sais pas si ça résonne ce qui a été évoqué, cette question de... Moi, j'ai bien aimé la catégorisation hein, qui a été employée par... il faut poser les choses, hein, dans quel cas de figure on se trouve. Vos réactions éventuellement, s'il y en a.
Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il manque un serrurier noir dans le tableau, mais c'est Flavien, c'est normal. Et puis, on a eu toute la panoplie des groupes qu'il affectionne depuis des années. Et je pense qu'il y a d'autres groupes encore qu'il fallait intégrer dans le tableau, peut-être. OTH ou...
Bien sûr.
Voilà, Strychnine, tu en as parlé, Strychnine, évidemment, c'est important. Et sinon, je me reconnais bien dans cette catégorisation un peu trop catégorique, parce qu'en réalité, il y a des groupes comme Barunjo qui sont... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un groupe iconoclaste, dans le sens... Enfin, la meilleure catégorie... Voilà, donc moi je reparlerai des questions de reformation. Ce qui est très juste, effectivement, c'est cette notion d'un âge d'or et d'un premier album ou d'un second album qui marque et qui, si on interviewe tous les disquaires, ils vous diront, enfin, on le voit bien dans les conventions, c'est toujours la même chose que demandent les gens, c'est-à-dire toujours l'album phare de tel ou tel groupe, que ce soit Pink Floyd ou que ce soit les Beatles ou. La souris ou d'autres groupes ou OTH, on a tendance à revenir vers un album, le premier album de Suicide, le premier album des Dead Boys, toujours un peu des albums qui sont devenus quasi mythiques.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, en plus, je veux juste témoigner de ce que ça peut poser comme interrogation vis-à-vis d'un groupe comme Strychnine. C'est qu'il y a des textes, alors Kik le rappelait hier sur scène, qui n'ont pas bougé, c'est vrai, et même qui sont d'une actualité assez troublante hein, sur la manière avec laquelle on peut se poser pour résister, etc. Et en même temps, il y a des textes, quand on chante « Je ne suis qu'un branleur », etc., on se dit « Tiens, c'est des trucs qu'on chantait facilement quand on avait 18 ans, et puis tout d'un coup, on est là à 50 ans passés, et on continue à dire les mêmes choses. » Donc, il y a aussi cette question de comment on va réinterroger finalement les répertoires et le sens qu'avaient les mots à un moment particulier de nos vies et le sens que ça peut prendre aujourd'hui. Et pour terminer sur Strychnine, ce qui m'avait marqué quand le groupe s'est reformé, c'est sur le troisième album, donc qui fait partie de l'album qui s'est rajouté à l'âge d'or, c'est quand même un changement de thématique. Alors j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais j'avais constaté que Kik, qui écrit les textes, s'était lancé sur des pistes plus écolo, par exemple, plus en prise avec des problématiques nouvelles. Et in fine, un des morceaux qui est plébiscité souvent par le public, c'est Nomade. Et Nomade, c'est pas un hasard. C'est un morceau que Kik a écrit avec Loran, que tu connais bien. Et qui, c'est un morceau qui a une autre vie, qui se situe à l'intersection, finalement, de l'héritage des Berus et de l'héritage de Strychnine. Donc, il y a aussi des phénomènes assez particuliers, culturellement parlant, sur certains morceaux, hein, qui ont une vie presque à part. Voilà.
Oui, si je peux, j'ai retrouvé le son et l'image, ça avait bugué. Moi, j'ai jamais été vraiment dans un groupe punk, mais on a œuvré pendant 5 ans sans vraiment casser la baraque. On avait fait la cassette autoproduite. J'ai eu des gens qui m'ont dit récemment qu'ils les avaient encore, c'est assez étonnant. Il y a peut-être 3 personnes dans le monde qui ont encore ces cassettes autoproduites, puisque même moi, je ne les ai plus. Et on avait tenté une reformation il y a un an, comme ça, pour le fun, parce qu'un ami l'avait demandé. On n'a pas pu jouer parce que après Covid et compagnie, on n'a pas pu faire ça. Mais je sais que quand on s'est retrouvés, on n'a jamais aussi bien joué qu'à ce moment-là, en fait. On n'avait jamais été aussi bon à l'époque, techniquement parlant. On avait tous pris un peu de ça. Alors, je ne sais pas si à 50 ans, on peut considérer qu'on n'est plus des branleurs. Moi, je crois que je le chanterai encore, hein, je suis un branleur à 55 ans, parce que, après tout... Mais c'est vrai que la question des textes qui étaient chantés à cette époque-là, c'est moi qui les écrivais tous. Il y en a certains, j'ai dit non, je ne peux pas reprendre cette chanson, c'est pas possible, quoi. C'est un truc d'ado qui regarde des trucs dans sa chambre. Ça va, maintenant j'ai un bureau, des fois j'appelle ma chambre, mais je suis plus à contempler les images sur les murs de ma chambre, comme je le faisais à 16, 17, 18 ans. Donc ça, effectivement, c'est une chanson qu'on avait écartée. Mais les trucs, je les ai assumés complètement, aussi bien au niveau du texte que des musiques, même si on a modifié un ou deux trucs ici ou là, parce qu'on avait un batteur au lieu d'une boîte à rythme, etc.
Donc, Opin, vous êtes tous des quincados, de toute façon.
Oui, c'est ça, voilà. Oui. Mais c'est marrant de retrouver, parce que cette reformation, justement, je parlerai d'une autre formation, des formations, etc., tout à l'heure, mais avoir l'idée de se reformer avec le claviériste, hein, qui est. Ça fait 45 ans qu'on se connaît maintenant, c'est le parrain de mon fils, etc. Donc on a gardé des relations intimes assez étroites, mais il habite à Paris, moi à Dijon, on se voit une fois tous les 10 ans. Et quand on s'est retrouvés, quand on a recommencé à jouer à la répétition, c'est comme si on n'avait pas arrêté depuis 88. Et c'est ça qui était formidable, en fait. C'est de se dire, à un moment donné, il y a toujours une communion qui restait entre nous, qui aurait pu pas exister, en fait. On aurait pu recommencer à jouer, puis au bout de 10 minutes, se dire, merde, ça marche pas, quoi. Et il n'y avait aucun enjeu financier chez nous. Hein. On n'était pas les Sex Pistols, donc bon.
Cette question des reformations, des formations, etc., ça rejoint une autre question qu'on va interroger un jour, de manière un peu différente, qui est le vieillissement en fait, de la scène, enfin vieillir dans le monde, parce que c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça donne ? J'avais vu passer, François, une petite caricature il n'y a pas si longtemps, avec les Bérus un peu plus vieux, et il y avait marqué « La vieillesse emmerde le Front National ». Et en fait... Alors, c'est d'une actualité brûlante quand on montre à nos étudiants Porcherie en 89, si tu veux, et que plus jamais de Front National. Enfin, voilà, nous, ça nous fait rigoler maintenant quand on connaît l'évolution. Mais donc, ça pose aussi cette question de vieillir dans le punk parce que je pense qu'à 50 ans, on ne pense pas les mêmes choses qu'à 20. On a sûrement plus envie de vieillir aussi. Ce qu'on constate, c'est qu'à 20, ils voulaient mourir tout de suite, mais à 50, ils espèrent bien mourir à 100 ans. Donc, on est vraiment à l'intersection d'une thématique générationnelle qui est un des axes du projet PIN.
Il y a un autre phénomène, mais ça a été pratiquement dit à interroger, c'est de voir aussi les groupes familiaux se recréer. C'est-à-dire, je pense à Sven en particulier de Parabellum, qui avait quasiment reconstitué un groupe familial, hein, avec Marouchka, avec vies, ses enfants, des vies, etc. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose, pour rebondir sur ce que dit Solveig, qui est assez marquant, finalement, après le No Future et tout ce qu'on peut imaginer, il y a une espèce d'investissement potentiellement familial sur ces carrières de groupe. Et enfin, mais il y a beaucoup de choses dont on va rediscuter cet après-midi sur la question de la table ronde. Je pense à Arnaud qui est en face de moi. Il y a aussi toute la question de qu'est-ce qu'on vit quand on a quitté un groupe, qu'on a un répertoire sur le dos et qu'on fait autre chose. Alors, c'est encore un aspect particulier des formations, reformations et des formations. Enfin, Arnaud t'en reparlera cet après-midi, mais quand on s'appelle Arnaud Futur et qu'on a un groupe qui s'appelle Arnaud Futur avec un capital qui s'appelle les Salles Majesté, c'est pas forcément simple à gérer.
Oui, Denis, c'est pareil, Denis Barre.
Voilà, et Denis Barre pour Noir Désir et Liguen, c'est pareil. Il y a des choses aussi comme ça. Et alors, je sais pas, François, peut-être que tu l'évoqueras ou pas, mais c'est pareil pour le groupe que tu as monté, Mododoy, après les Bérus. Il y a peut-être des choses à dire aussi sur ces bifurcations de vie chez les punks et qui sont des choses intéressantes aussi qui viennent nourrir ce débat. On en reparlera cet après-midi.
Pas de souci. Il y a une chose qui m'a semblé aussi intéressante dans ce que disait Flavien, mais je pense qu'il aurait pu développer, c'est la notion d'intensité. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui ont une vie très éphémère, mais qui ont une vie extrêmement intense. Ce qui a été d'ailleurs le cas de Molodoy, puisqu'on a brûlé nos cartes en 6 ans assez rapidement, en toute conscience. Et il y a cette notion, à mon avis, alors parfois ça peut être juste quelques mois, un concert marquant et la disparition de ce groupe, mais qui laisse une trace importante dans l'histoire du rock. En France, c'est difficile à dire, mais bon, métal urbain, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que très peu de première période, très peu de concerts, mais des actes assez forts qui font que le groupe a gardé cette aura assez particulière, ou Gasoline, puisque je les avais vus sur scène en juillet 78 à l'Olympia. C'est pareil, c'est des groupes qui sont quasiment mythiques du fait de l'intensité de leurs propos, de leur gestuelle, de leur action.
Tout à fait. Ouais. Bon, mais je crois, merci pour ces échanges qui viennent un petit peu enrichir la communication de Flavien.